could I give you up?
5h, 5h30.
Bonjour chez vous.
Avec EMCI TV.
Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous parlons des bienfaits d'une vie équilibrée. Alors, on peut être équilibré à plusieurs niveaux et on va essayer d'être le plus large possible pour vous aider. Donc, c'est une émission qui se veut plutôt pratique, mais spirituelle en même temps. On est capable de faire les deux en même temps, n'est-ce pas, mesdames?
Oui,
yes.
Tu le dis. Le parfait équilibre.
Le parfait équilibre, c'est ça. Naturel et spirituel mis ensemble, le package parfait. Et Nadine, tu vas nous parler, toi, de l'équilibre entre la vie privée et le travail dans une rubrique famille, c'est bien ça?
Exactement, une rubrique famille pour tous ceux qui travaillent et qui sont des fois très pris par leur travail et qui ont du mal à faire la part des choses avec la vie familiale. Comment faire la part des choses? Comment faire cette coupure entre la vie de famille et la vie du travail?
Tellement actuel comme sujet. Comment ne pas ramener le travail à la maison? Ou la vie privée au travail? Mais c'est rarement ce problème. C'est marrant quand même. Nous devrions en parler dans cette émission.
Nous allons beaucoup en parler.
Allez Aurélie, on va commencer avec toi dans la pensée du jour.
Alors, lorsqu'on parle de vie équilibrée, on parle de quoi au juste? Une vie équilibrée, c'est une vie où toutes les dimensions de l'être humain sont prises en compte et développées avec une attention appropriée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit, notre âme et notre corps sont entretenus de manière saine. C'est une vie dans laquelle on peut faire la part des choses, une vie, dans laquelle on respecte également et on maintient ses priorités. Il va falloir jongler dans cette vie-là, dans les différentes sphères, pour qu'il y ait un équilibre à la fois physique, émotionnel, mental et même spirituel. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, du verset 1 à 8, c'est un verset qu'on récite, on connaît souvent, c'est le verset de l'équilibre, j'ai envie de dire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter. Bref, il y a un temps vraiment pour tout. Si on lit tout le verset, on voit qu'il y a différents aspects de la vie qui sont dits dans ce verset-là. Et la Bible nous fait comprendre à travers ce verset qu'il y a vraiment un temps pour chaque chose. C'est un verset, comme je disais, qu'on connaît. C'est un verset même qu'on accepte. Mais force est quand même de constater que dans la vie de plusieurs personnes, il y a quand même un déséquilibre quelque part. Quelles sont les raisons qui entraînent ce déséquilibre? Pour certaines personnes vont croire que pratiquer des activités spirituelles est une raison pour vivre équilibré, mais pour vivre déséquilibré, pardon. Mais lorsqu'on regarde à ce verset, on voit qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps pour servir, mais il y a aussi un temps pour dormir, il y a un temps pour s'occuper des siens. On ne peut pas négliger, par exemple, l'éducation de ses enfants. On ne peut pas négliger sa famille ou même son sommeil, la santé physique, sous prétexte que, voilà, on est en train de faire des activités spirituelles. Donc là, il y a aussi un équilibre qui doit arriver. Une autre raison, c'est aussi quoi? C'est qu'une promotion, par exemple, au travail, Nadine va parler du travail tout à l'heure, mais une promotion au travail ou même un changement social, hein, ça peut être différentes choses, aussi n'est pas une excuse pour vivre de manière déséquilibrée. On ne peut pas, dans ce cas-là, oublier sa vie spirituelle sous prétexte qu'on a été promu, parce qu'il y a une nouveauté à l'horizon, et puis là, on met complètement de côté sa vie spirituelle. La Bible dit dans Proverbes 11 au verset 1, « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Alors, quand on parle de balance fausse, on parle aussi de vie déséquilibrée. Parce que dans la balance, ben, il faut qu'il y ait un équilibre, justement. Et on aura à rendre compte sur la façon dont on a géré notre vie. Alors aujourd'hui, je veux tous nous encourager à retrouver notre équilibre là où on ressent qu'on l'a perdu. Alors comment est-ce qu'on va faire pour retrouver cet équilibre-là? Mais chaque fois, il faut se poser la question, est-ce qu'au niveau de mon esprit, au niveau de mon âme, au niveau de mon corps, est-ce que cet équilibre est maintenu? Et si on sent qu'il y a un des niveaux où l'équilibre n'est pas maintenu, mais il va falloir chercher à rééquilibrer. Il faut également apprendre à jongler avec les saisons. Parfois, oui, il y a des saisons de la vie qui vont demander beaucoup plus de temps et qui ne vont pas permettre forcément qu'il y ait un équilibre parfait. Mais c'est aussi en sachant comment jongler dans ces différentes saisons-là qu'on pourra retrouver un certain équilibre. Et la dernière chose que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, eh bien, c'est de respecter l'équilibre parfait. La Bible nous dit de chercher Dieu en priorité. Et c'est ça l'équilibre, c'est de chercher Dieu, c'est de chercher son royaume et de laisser toutes les autres choses s'aligner dans votre vie.
Amen. Amen. Merci pour cette pensée super complète. Tu as traité de plein de points et j'ai aimé que tu parles des saisons parce que je trouve que c'est un sujet important. Puis quand on parle de vie équilibrée, parfois, on pense pas à le mettre dans le cadre des différentes saisons. Mm-hmm. Et on veut faire comme un modèle qui va fonctionner quasiment toute notre vie. Ouais. Mais en réalité, ça va pas être possible. Ça crée des frustrations et donc des déséquilibres. Parce que ce qui était valable pour hier n'est peut-être plus valable pour demain. Mm-hmm. Parce que oui, les saisons changent. Mais la Bible nous exhorte à quelque chose en tout temps. Et on va regarder, c'est notre verset du jour, Éphésiens 5 au verset 15. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Mmh. Et dans ces saisons dont tu parles, Aurélie, il y a des moments où les gens, justement, vont... Parce qu'il y a comme un gros rush au travail, ou c'est ça, on a eu une promotion, comme tu l'as dit, ou une situation particulière qu'on vit dans notre travail ou à l'église, peu importe. Eh bien, on oublie tout la sagesse qu'on avait mise en pratique jusqu'à présent, tout l'équilibre qu'on s'était efforcé de mettre, c'est comme si ça saute parce qu'il y a une situation particulière et on finit par se comporter comme des fous finalement, comme ce verset nous dit. On va se coucher extrêmement tard tous les soirs, on ne prend plus une seule journée de congé, on enchaîne les journées de travail, on enchaîne les longues journées, les longues heures de travail, la famille passe au second plan, voire n'existe plus. Mmh. Et puis on commence à tout mettre à l'envers parce que on est dans une nouvelle saison et on oublie les décisions qu'on a prises. Et c'est là où il faut être très sage, quand une nouvelle saison arrive, se dire « Ok, mon modèle peut-être ne fonctionne plus, mais est-ce que je peux trouver un autre modèle qui fonctionne avec cette nouvelle saison et garder un petit peu de flexibilité et d'adaptabilité dans cette nouvelle saison qu'on traverse.
Mm-hmm. En fait, il faut aussi pouvoir penser à long terme parce que je pense que c'est le fait d'être braqué sur l'instant présent qui est souvent un piège pour certaines personnes parce que oui, l'instant présent va te préoccuper, il y aura des choses à gérer, c'est un fait, mais il faut choisir la bonne part. Et c'est pour ça que dans ma pensée, j'ai parlé aussi de l'esprit, de l'âme et du corps. Parce que parfois, oui, on va dire, je choisis la bonne part sur le plan physique, par exemple. Je mets tout, supposons, dans le sport, je prends ça comme exemple. Et puis, j'oublie tout le reste. Mais t'es pas juste corps, t'es aussi âme. Donc, si tout ce que tu fais sur le plan physique nuit à ton âme, tu seras déséquilibré. Si tout ce que tu fais, peut-être au niveau de ton âme, tu veux te faire plaisir, tu veux faire telle chose et tout. Mais si ça nuit au côté spirituel, tu seras déséquilibré. Et ça, c'est parce que parfois, on regarde juste au présent. On voit que, OK, mais j'ai ce besoin actuellement. J'ai cette promotion actuellement. Il faut le faire. Il faut y arriver. Et c'est ça qui fait qu'on oublie tout le reste. Mais on doit apprendre à penser vraiment à plus long terme que ce qu'on voit juste aujourd'hui. Quand Jésus parle à Marthe, il lui dit que Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Mmh. Et parfois, pour vivre équilibré, il faut pouvoir choisir la bonne part, celle qui va durer dans le temps. Mmh. Et on va remarquer que les choses qui vont durer dans le temps, c'est quoi ? Ta famille, Dieu dans le temps, ça veut dire qu'elle doit être une priorité. Ta relation avec Dieu, Dieu dans le temps, elle doit être une priorité. Ton travail est nécessaire, oui, tu vas le placer dans ta vie, de sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans tout le reste. Et ça, c'est la chose avec laquelle il faut apprendre à composer, à jongler, mais dans tous les cas, il faut reconnaître notre priorité ultime, qui est vraiment notre Dieu.
Amen.
Amen. Et j'aime trop le titre de cette émission parce que ça parle des bienfaits d'une vie équilibrée. Et des fois, on peut penser à tort qu'il n'y a pas tant de bienfaits que ça. Si je suis à fond dans mon travail et que voilà, je vois les résultats parce que je m'épanouis, parce que voilà, j'ai de l'argent, parce que j'ai une reconnaissance sociale, je peux penser que c'est bien. Mais si je comprends qu'il y a des bienfaits à peut-être couper à cet endroit-là, il y a des bienfaits à avoir une vie équilibrée, je vais pouvoir mettre en application en fait tout ce qui est dit aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui roulent à 100 000 à l'heure et ils sont conscients que leur vie est déséquilibrée. Peut-être même au niveau de leur santé, ils sentent que voilà, leur corps les dérange et tout. Mais bon, ils remettent ça voilà, à demain. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent continuer à aller à fond. Mais vraiment de se dire qu'il y a un bienfait à l'équilibre, en fait. Et ça nous permet, lorsqu'on a une vie équilibrée, ça nous permet même de rester plus longtemps sur Terre. parce que vraiment, il y a des personnes aussi, vous travaillez tellement fort, vous êtes tellement à fond dans ce que vous faites et que vous manquez vraiment à faire des choses qui sont de basiques, hein, de bien se nourrir, de dormir assez, d'avoir juste une vie sociale qui te permet même toi-même, dans ton âme et tout, d'avoir des connexions avec d'autres personnes. C'est aussi important que voilà, la carrière ou le ministère, ou etc., qui prend toute la place. Et dans Parole de Femme, il y a quelque temps, on avait fait une série sur les extrêmes. On a parlé de différents extrêmes. Et tout au long de cette série, justement, on présentait des extrêmes qui semblaient être bons, si on regarde d'un côté ou de l'autre, mais en disant en fait que non, l'idée, c'est d'avoir un équilibre, d'arriver un petit peu au milieu. Et par rapport à la vie aujourd'hui, tellement la vie va vite, il est important pour chaque personne de s'asseoir et se dire, est-ce que ma vie est équilibrée ? Et chaque personne, on le sait. Peut-être, oui, tu as parlé des saisons. Et on dit, OK, bon, là, c'est juste pour un temps. Oui, peut-être là, les enfants sont petits. C'est une saison de rush. Mais en temps normal, en général, quand je regarde tout, est-ce que c'est équilibré? Si ça ne l'est pas, de vraiment chercher d'apporter cet équilibre-là, de regarder Jésus qui était notre modèle par excellence, qui prenait le temps pour se reposer, qui prenait le temps pour se retirer, pour prier, même s'il y avait encore la foule, il prenait le temps à un moment donné, OK, on a fini. Dans cette ville, on doit se diriger vers une autre parce que je dois continuer ma mission. Mmh. Et donc ça doit nous apprendre aussi des fois, nous-mêmes, on perd l'équilibre parce qu'on se laisse porter par des choses en se disant que c'est important. Oui, c'est important, mais ce qui est important, c'est que toi aussi, tu sois vivant pour faire toutes les restes des choses que tu as à faire,
ça,
en fait.
Ouais. Vas-y. Et j'aimerais dire aussi qu'à la fin de la journée, tu es responsable de ton propre équilibre. Mmh. Et comme on a dit qu'on parle de bienfaits, dans mes recherches, j'avais vu que en fait, il y a plusieurs souffrances qui sont vraiment le résultat d'une vie déséquilibrée. Et c'est des choses dans lesquelles les gens, peut-être qui nous suivent, vont se reconnaître. Et il y a des souffrances physiques. On disait, les personnes qui ne prennent pas soin de leur corps peuvent ressentir des douleurs physiques, de la fatigue. Tu en as un peu parlé, Nadine. Une hypertension artérielle, un excès de poids, un sommeil perturbé. Par exemple, quand le déséquilibre au niveau physique. Il y a aussi des souffrances mentales. Les personnes qui ne prennent pas soin de leur équilibre mental peuvent ressentir de l'anxiété, du stress, de la dépression, de la confusion, de la tristesse et de la frustration. Au niveau émotionnel, ces personnes peuvent ressentir la colère, la rancœur, la jalousie, l'envie, la peur. Donc ça, c'est les choses qui ne sont pas les fruits de l'esprit. Et au niveau social, les personnes qui ne prennent pas soin de leurs relations sociales peuvent ressentir de l'isolement, de la solitude, de la stigmatisation, de l'incompréhension. Donc ça veut dire que c'est des choses, peut-être que tu peux te retrouver dans une ou dans l'autre chose, le but n'est pas de dire « Ah oui, mais t'es déséquilibré si t'es dans l'une de ces choses-là », mais c'est de juste voir dans quelle mesure on peut s'ajuster, parce que nous sommes responsables de notre vie. Ça ne dépend pas de ton voisin, je veux dire, c'est pas la société qui va venir ajuster ta vie, c'est pas tes parents, c'est toi qui dois pouvoir prendre du recul pour dire « Mais en fait, là, je vois quand même que sur le plan social, par exemple, je manque d'équilibre, mais il faudrait que je trouve la façon peut-être de me faire des amis, la façon de vivre ma vie professionnelle de façon plus équilibrée. Et c'est ça qui va faire la différence au final, parce qu'une vie équilibrée est une vie aussi bénie, est une vie joyeuse, c'est une vie où on peut louer le Seigneur, l'adorer, mais sans avoir l'impression d'être à la ramasse, si je peux dire ça comme ça, ou d'avoir toujours quelque chose qui manque. Et c'est important que chacun de nous, on prenne nos responsabilités à ce niveau-là.
Vraiment. En fait, je trouve que l'équilibre, c'est de la maturité, en fait. Une personne mature va être une personne équilibrée. Mon fils a 10 ans, il est complètement fan de foot et il est complètement déséquilibré à ce niveau-là. Il ne mange que foot, il ne parle que foot, il ne rêve que foot, il ne pense que foot. Tout tourne autour de ça. Et moi, en tant que maman, j'essaie de lui apprendre à être équilibré, à se modérer un petit peu, à laisser de la place pour d'autres choses et pour sa relation avec Dieu principalement, mais d'autres choses aussi. Et ça fait partie de la croissance. C'est un enfant, c'est normal. Il est comme ça, il est passionné. Mais en tant qu'adulte, quelqu'un qui est déséquilibré, pour moi, c'est qu'on n'a pas le fruit de l'esprit de la maîtrise de soi qui se manifeste. On est juste dirigé par ce qui nous paraît être urgent, ce qui nous touche, oui, ce qui nous passionne peut-être, mais on n'a pas la sagesse de se poser puis de se dire, là, il faut que je fasse attention à ça, il faut que je modère ça. Et en fait, l'équilibre, c'est de la maturité. Donc, je pense qu'on a tous à grandir là-dedans, bien sûr, et comme on l'a dit, il y a des saisons particulières, il faut rester flexible, il ne faut pas être rigide non plus. J'ai connu des gens qui étaient tellement rigides que tu peux rien toucher, déplacer dans leur horaire. Et là, ça pose problème. Donc, restez quand même flexible, mais ayez la maturité, la sagesse de vous maîtriser par moment et de faire des choix qui sont importants pour votre vie, pour votre corps, pour votre vie de famille, pour votre relation avec Dieu. Et je suis convaincue que l'équilibre va se replacer. Et un domaine où l'équilibre est difficile à avoir, on en a parlé un petit peu, c'est le travail versus la vie de famille, le foyer, la maison, les choses personnelles. Et Nadine, dans la rubrique famille, va nous donner ses conseils de maman, travailleuse, femme de pasteur, femme de Dieu, tout ça dans la rubrique famille.
Et oui, comme Evelyne l'a si bien dit, chercher l'équilibre, c'est quelque chose que nous tous, nous devons aspirer à faire. Et moi, personnellement, je porte énormément de casquettes. Alors, je suis pasteur, je suis femme de pasteur, j'ai 3 enfants, un mari, un travail ici à MCI, je fais les plannings, je fais plein de choses pour l'église. J'ai une famille aussi, des frères, des sœurs, une maman, énormément de choses. Et tout ça, faut faire la part des choses, en fait. Et on peut se laisser submerger comme ça et l'agenda se remplit. Des sollicitations, que ce soit des personnes, voilà, des membres de l'église qui ont besoin d'un suivi, d'un entretien, que ce soit voilà, des sollicitations au travail, d'une réunion, d'un projet, que ce soit par rapport aux enfants, le couple, etc. Et tout peut se remplir et on peut se sentir submergé. Mais c'est important d'avoir un équilibre. Et particulièrement au niveau du travail. Ça, je crois que je parle à beaucoup de personnes, surtout aujourd'hui, avec le télétravail, on s'est retrouvé à travailler à la maison. Et travailler à la maison, des fois, on travaille beaucoup plus que lorsqu'on travaillait au bureau. Parce que peut-être au bureau, à une certaine heure, on doit quitter. Mais à la maison, on se dit, ah tiens, je vais d'abord juste finir ça, je vais d'abord finir ça. Et comme ça, le 17h devient 19h, devient 20h, ou bien voilà. Et les journées, comme ça, deviennent très, très longues. Et on peut aussi avoir un manque d'équilibre parce que on fait un emploi, peut-être qu'il y a un emploi qui est prenant. Je pense à une personne qui est un policier, je pense à un médecin, une infirmière. Tu sais, des fois, il y a des types d'emplois qui te sollicitent tellement émotionnellement que lorsque tu arrives à la maison, tu portes aussi tous les dossiers que tu avais laissés, quelqu'un qui est un avocat, par exemple, des choses que tu as vues pendant la journée et tu les ramènes à la maison. Mais c'est important de faire la coupure entre la maison et la vie de famille, entre le travail et la maison. Il y a des personnes, pour vous, peut-être ça ne s'appliquera pas à vous parce que vous, votre travail, dès que 17h arrive, vous êtes capable de fermer la boîte et puis vous êtes parti, vous n'y pensez plus. Peut-être des personnes qui travaillent peut-être dans un emploi avec lequel vous êtes en contact avec la clientèle qui est moins sollicitée, exactement. Mais pour les autres, je vais partager avec vous 4 points qui vont nous aider à comment faire la coupure entre le travail et la vie de famille. Le premier point, c'est celui de la notion de cassure. Il y a une petite histoire, un petit verset comme ça dans Genèse qui me fait souvent sourire quand je le lis. C'est Genèse 30 au verset 16. La Bible dit, le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. En fait, je parle de cette histoire. Pourquoi? Parce que j'imagine Jacob qui revient du travail, qui est fatigué, qui a labouré toute la journée, qui s'occupait des brebis, voilà, qui a fait tout ce qu'il devait faire. Et il arrive à la maison pour s'asseoir. Et là, il trouve des dossiers, il trouve des choses en fait qui l'attendent. Alors qu'il était parti, ses femmes se sont disputées sur quelque chose, ont établi quelque chose et il arrive, il trouve ça. Et des fois, quand on travaille, on revient à la maison, on pense qu'on revient pour s'asseoir, mais on trouve autre chose. On trouve peut-être les devoirs, on trouve le ménage, on trouve les situations familiales qui nous attendent. Et on ne peut pas tout simplement se dire, ben, j'ai travaillé, ça s'arrête là. Non, on doit être capable de quitter le rôle du travail pour entrer dans le rôle à la maison. C'est pour ça que je parle de la notion de cassure. Et la cassure peut se faire de différentes manières. Moi, par exemple, je me rappelle, avant, dans mon ancien emploi, une chose que je faisais quand je rentrais à la maison, c'était prendre ma douche tout de suite. C'était ça ma cassure, en fait, qui faisait que là, je suis plus avec mes dossiers, je pense plus à mon travail. Là, je suis en mode maison. Ça peut être autre chose, peut-être pour vous, vous avez une petite routine, mais c'est important d'établir cette routine-là pour pouvoir faire la cassure. Pour certaines personnes, c'est d'arriver et de raconter peut-être ce qu'ils ont porté aujourd'hui. Peut-être que vous travaillez et votre travail est demandant au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, et vous avez peut-être besoin d'avoir en 15 minutes où vous allez parler de ce que vous avez fait, d'un dossier qui vous préoccupe. Mais une fois que vous avez fini, c'est fini. On n'en parle plus, on fait la différence parce que là, maintenant, on se trouve en mode maison et notre maison a besoin de nous. Comme Jacob revenait du champ, ben, sa maison avait besoin de lui, mais de la même manière aussi, vous, votre maison a besoin de vous et c'est important pour vous de faire cette cassure. Le deuxième point, c'est le point du piège de la passion. Parce que c'est un piège. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes pour qui le travail, bon, c'est juste un travail, on travaille, on a terminé et ça s'arrête là. Et il y a d'autres personnes pour qui le travail, c'est vraiment une vocation et ils sont passionnés, c'est des projets, c'est peut-être des entrepreneurs, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Et parce qu'on aime ce qu'on fait, parce que ça semble bien, comme on nous l'a dit dans la pensée, on peut penser que parce que c'est bien, ben c'est normal que ça prenne toute la place et que ça m'enlève un équilibre. Mais on a vu dans la pensée, dans la discussion, que c'est pas le cas. Alors la passion peut être un piège. C'est bien d'être passionné de votre travail, c'est bien d'avoir des projets, de faire des grandes choses, et des fois même des choses pour le royaume. Hein. Peut-être que vous travaillez dans le royaume, vous faites des choses pour le Seigneur. C'est bien de faire toutes ces choses-là. Mais si le Seigneur vous a donné une vie, vous a donné peut-être des enfants, un foyer, ou juste une santé, des amis, ben c'est important d'avoir un équilibre aussi, et c'est le respecter, c'est l'honorer, c'est le remercier, c'est être reconnaissant que de prendre soin de ces autres aspects-là. Et vraiment, la passion peut être un piège, parce que la passion, c'est beau, c'est bien d'être passionné, mais si on ne fait pas attention, elle peut venir engloutir les autres choses et nous empêcher d'avoir un équilibre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, au bout d'un certain temps, voilà, vont faire un burn-out, vont s'épuiser complètement, et c'est comme, ils sont totalement dépités, pourquoi ils ont tout... Au nom de la passion, ils sont allés trop vite et ils ont brûlé comme ça toutes les cartes autour d'eux et ils ont même brûlé leur santé au passage. Mmh. Donc, c'est important de comprendre que la passion, c'est beau, mais la passion peut être un piège si vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Après, je vous dis, comme je vous dis moi-même, je suis très occupée, je suis très prise dans mes choses. Et ça arrive, oui, des fois de travailler tard. Ça arrive des fois aussi de parler des dossiers à la maison et tout ça. Mais que ce ne soit pas une habitude, que lorsqu'on le fait, on se rend compte que oui, c'est exceptionnel, mais c'est pas normal que ce soit constant. Et surtout lorsque les autres, en fait, ils se plaignent, lorsque les autres sentent que ben, vous n'êtes pas disponible pour eux. Le troisième point, et Aurélie en avait parlé dans sa pensée, c'est le sens des priorités. Il y a ce verset qu'on connaît bien dans 1 Timothée 5, le verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et ce verset nous apprend que la famille, c'est important. Pourquoi? Parce que des fois, on prend notre famille pour acquis. Lorsque justement, on est passionné par notre travail, on réussit aussi. Et le fait de réussir dans notre travail peut nous amener aussi une certaine, un sentiment de fierté, un sentiment d'épanouissement, une certaine gloire, entre guillemets. Et du coup, on commence à négliger un petit peu les gens autour de nous en se disant, ben, écoute, c'est ce travail qui permet qu'on soit bien logé. Et puis voilà, et voilà. Et on a des explications comme ça et on néglige les gens autour de nous. Mais ce verset nous rappelle que le Seigneur qui vous a donné cette femme, qui vous a donné ce mari, qui vous a donné ses enfants, qui vous a donné peut-être ses frères, ses sœurs, ses amis, ben il vous les a pas donnés en vain en fait. Et comme Aurélie le disait dans son intervention, que c'est l'équilibre, ça revient à nous. Ben votre famille, c'est à vous de la valoriser. C'est pas à vos enfants de tout le temps vous rappeler papa, papa, maman, maman ou votre femme à vous mettre la pression. C'est vous-même d'être reconnaissant. Wow, j'ai une famille. Et vraiment, c'est être reconnaissant de ça. Et lorsqu'on est reconnaissant, on sait voir valoriser. Et lorsqu'on est, on sait valoriser, on sait à ce moment-là ajuster nos priorités. Et c'est vraiment important pour que vous ajustez vos priorités. C'est réservé à chaque personne. Moi, mes enfants sont plus grands, mais c'est pas parce qu'ils sont plus grands qu'ils sont indépendants. C'est sûr que je suis plus dans la routine du dodo. Je suis plus dans une routine de devoir où je m'assois à côté, je regarde, je signe des papiers, etc. Mais je suis plus dans une routine comme ça. Par contre, je suis dans une routine d'écoute où je sais que, OK, il est revenu. Là, il m'a dit ça. OK, dans 3 jours, je vérifie. Et puis, comment c'était? Et ton ami, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans une autre routine, mais quand même, je dois être présent. Alors, c'est peut-être pas aussi prenant qu'une maman d'un enfant de 5 ans, mais c'est quand même, il y a quand même une responsabilité qui est là. Et c'est pour ça que cette émission, c'est pour vous, tout simplement vous interpeller à chacun de vous asseoir et de dire, OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai mis ma famille à la bonne place et non mon travail au-dessus de ma famille? Et le quatrième point, c'est le respect des saisons. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui est dans Psaume. Peut-être que vous allez le deviner. Le Psaume 90 au verset 12. La Bible nous dit, Moïse parle et il dit, ce verset a été pour moi une révélation. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et le sens des priorités, le respect des saisons, pardon, c'est cette compréhension que vous avez de la saison dans laquelle vous êtes. Des fois, on peut être dans une saison et on méprise la saison dans laquelle on est. On envie les autres parce qu'on a l'impression qu'ils vont à 100 000 à l'heure, ne reconnaissant pas qu'on est dans une saison. Et cette saison-là, nous devons la chérir, en fait. Et si on sait bien la chérir, on va bien la maximiser. On va savoir retirer ce qui est bon de ça. Lorsqu'on est dans une saison de célibat, lorsqu'on est dans une saison, les enfants sont plus petits. Dans une saison, peut-être, la maison est vide, on est resté en couple. Ces différentes saisons-là, on doit être capable de savoir les valoriser pour savoir les chérir. Alors, lorsqu'on parle de faire la coupure entre le travail et la maison, et on parle du respect des saisons, c'est de savoir si vous êtes dans une saison où vos enfants sont petits, où vos enfants ont besoin de vous, où vos enfants sont à la maison encore, sous le toit familial, c'est à vous aussi de respecter ce rythme-là. Et peut-être ce ne serait pas un rythme de votre voisine, voilà, qui, elle fait des voyages d'affaires à tous les 3 mois. Ce serait peut-être un rythme qui serait plus lent, entre guillemets, mais ça va être un rythme qui est bénéfique. Ça va être un rythme qui va permettre à votre famille de tenir dans le temps. On a parlé de tenir dans le temps. Mais quand vous serez plus vieux, les enfants n'auront pas de ressenti envers d'amertume envers vous. Votre couple va pouvoir continuer. Pourquoi? Parce que dans les saisons les plus mouvementées, vous avez quand même pris le temps de valoriser. Et respecter les saisons, ce n'est pas se comparer avec les autres. Comme je dis toujours, on s'inspire, mais on ne se compare pas. Chacun a son couloir, chacun a sa vie. Chacun a ses priorités, ses responsabilités. Et vraiment, enseignons à bien compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Ça veut dire que dans cette saison, Dieu doit vous donner une sagesse pour avoir le bon équilibre par rapport à votre vie de famille, par rapport au ministère, par rapport au temps que vous passez dans les réunions, à l'église, etc., par rapport au temps que vous donnez à votre travail. Tout ça, il y a un équilibre divin, un équilibre parfait qui est là et le Seigneur peut vous l'inspirer. Et c'est maintenant question de vous positionner. Si vous vous sentez que vous êtes submergé, que vos journées sont longues, que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, que c'est comme ça, une journée finie, il y en a une autre qui commence et puis ça n'arrête pas de finir. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Je sais que c'est toi qui m'as mis sur cette terre. Je sais que tu as des plans merveilleux pour moi. Je veux faire le mieux pour toi. Je veux te glorifier dans cette saison dans laquelle je suis. Montre-moi la façon de faire. Donne-moi l'équilibre, donne-moi les outils qu'il faut pour que j'ai un bon équilibre. Peut-être ça prendra que vous preniez une femme de ménage, peut-être ça prendra que vous preniez un service de repas, peut-être ça prendra que vous bloquez des après-midi, un après-midi par semaine. Mais vraiment, il y a quelque chose, il y a une sagesse divine que Dieu va vous donner pour que vous ne puissiez pas tout mettre dans un panier et perdre le reste, mais que vous puissiez avoir un équilibre, parce qu'on a dit tout à l'heure que votre santé physique même dépend de ça, votre épanouissement émotionnel dépend de ça. Alors vraiment, je vous encourage à avoir le bon équilibre. Oui, faites votre travail, mais valorisez votre famille, c'est important.
Merci beaucoup, Nadine. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour tes conseils. Et je pense que c'est des conseils qui s'appliquent aussi vraiment aux couples pastoraux. Tu l'as cité un tout petit peu, mais on sait que c'est encore plus difficile de faire la part des choses. Donc, si vous êtes pasteur ou un conjoint de pasteur, vous écoutez cette émission, vraiment, prenez tous les conseils de Nadine et essayez de les appliquer au mieux, particulièrement dans les discussions qu'on peut avoir dans la famille. Le sujet de l'église peut devenir le seul sujet de conversation entre époux, avec les enfants, lors de repas. Et faisons attention à ça, d'avoir d'autres sujets de conversation aussi, et que le travail ou le ministère, en l'occurrence, ne prennent pas toute la place dans le foyer. Il faut être capable vraiment de se discipliner là aussi, de faire la part des choses. Et j'aime beaucoup quand tu dis, on s'attribue éventuellement un petit temps. Ah, tu as besoin de 15 minutes pour évacuer. Ben, on fait ça. Nous, avec mon mari, on fait ça des fois. Si on se fait une soirée tous les deux, mais on a eu une grosse journée, on dit, OK, on se donne jusqu'à telle heure. On parle que du travail, on évacue, on se partage ce qu'on a vécu. Mais après, on ferme la porte et puis c'est interdiction. S'il y en a un qui s'égare, on a dit qu'on ne parlait pas de ça. Et ça permet de se garder l'un et l'autre. Donc, soyons vigilants et prenons soin vraiment les uns des autres. Merci Nadine, c'était une rubrique très, très importante. Eh bien, demain, on va parler de la grâce de Dieu. Et finalement, c'est une belle continuité à cette émission parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu au quotidien. Et justement, dans ces temps où peut-être vous êtes débordés, la grâce de Dieu est disponible. Donc, demain, nous parlerons de la grâce de Dieu. Et Omer sera avec nous pour un conseil du coach, comment relever la tête après plusieurs échecs. Une très belle émission qu'on aura demain. Alors, on vous dit à demain et bonjour chez vous.
Mardi 14, vous écoutez Phare FM, bienvenue dans Cocorico, innocent avec vous jusqu'à 6h30.
Il a besoin de respirer, s'il te plaît. Prends-en soin, couvre le bien. Il est écrit qu'on fera rien comme les autres, rien comme les autres, que tous les deux on vivra rien comme les autres, même si on ne nous comprend pas, c'est ce qui fait que je t'aime toi. Je t'ai vu te faire mal et douter pour aimer. Il fallait s'absenter, que cette absence nous enchaîne pour aimer. Il fallait que l'on devienne un regret pour chercher à dépasser le passé. Il est écrit qu'on fera.
Calogero sur Phare FM, bienvenue.
5h30, 6h30, Cocorico.
Avec Innocent.
La journée de mardi démarre et elle démarre très bien. Bienvenue sur Phare FM dans Cocorico. Innocent avec vous jusqu'à 6h30. Je l'ai déjà dit, je pense. Allez, un encouragement pour vous faire du bien aujourd'hui, surtout aux parents de l'éducation dans un monde troublé. C'est la thématique abordée dans Parole du jour de Bob et Debbie Gass. Ça sera juste après la musique. Laurine, voici Tatou sur Phare FM.
Is
Sur Phare FM, c'était The Afters. Il fait beau aujourd'hui, profitez-en sur Phare FM. Voici Parole du jour.
5h30, 6h30, Cocorico.
Avec Innocent. Parole du jour, chaque jour un mot d'encouragement. Avec Bob et des Bigasses.
N'irritez pas vos enfants. Colossiens 3, verset 21. De l'éducation dans un monde troublé, partie 4. Bonjour à tous. Quatrièmement, le pire ou le meilleur. L'amertume est un fort ressentiment qui mène au cynisme. Les parents énervent parfois leurs enfants. Voici les éléments déclencheurs. Petit a, l'incohérence. Elle s'installe dès que l'on est autoritaire un jour et permissif le lendemain. Pour le même fait, on était sévère la veille, on est indulgent aujourd'hui. L'enfant ne sait donc jamais à quoi s'attendre. Petit b, l'humeur. Un jour on est amusant et agréable à vivre, le jour suivant, on est irritable et distant. Petit c, le manque d'explication rationnelle. On ne discute pas, on ne cherche pas à comprendre. On dit « il suffit de faire ce que je dis parce que je le dis ». L'enfant n'a donc jamais l'occasion de réfléchir et trouver le pourquoi du comment. Petit d, l'abus. Il peut être physique ou moral. Refus d'amour, mutisme, rejet. Il est parfois verbal, cris et injures blessantes. Petit 2, ne pas joindre le geste à la parole. Dire une chose, mais en faire une autre. On inculque des convictions, mais on ne les met pas en pratique. On veut qu'ils soient respectueux, mais on manque de respect aux autres. On aimerait qu'ils soient honnêtes, mais on leur montre surtout comment tricher et mentir à la moindre occasion. Les enfants sont de fins observateurs. Ils peuvent ne rien dire, mais rien de ce que vous faites n'échappe à leur attention. Ils voient vos incohérences lorsque vos paroles ne correspondent pas à vos actes. Tous ces comportements peuvent les rendre amers. La Bible dit « N'irritez pas vos enfants ». Ne les incitez pas au découragement.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Lucienne Lee avec ma sœur sur Phare FM. Voici, c'est parti.
À quel point croyez-vous influencer celles et ceux qui vous entourent ? Qu'on le veuille ou non, il est facile de se laisser atteindre par l'environnement extérieur. La météo, les gens qui rouspètent sur le trajet du travail, une mauvaise odeur. Nous, les êtres humains, sommes des créatures sensibles, voyez-vous ? C'est tellement vrai qu'en seulement une seconde, la contrariété peut nous envahir et gâcher toute une heure, voire même toute une journée. La simplicité des événements peut dans le même temps tellement compliquer les choses. Finalement, là où ça mérite de s'interroger, d'observer les circonstances et d'essayer de changer notre manière d'apprivoiser le présent, c'est quand ça nous pèse, quand ça agace notre esprit et que ça atteint négativement notre corps. Le 6e président des États-Unis, John Quincy Adams, a écrit « Si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à en apprendre davantage, à en faire plus et à devenir meilleur, alors vous êtes un leader. » Vois-tu, Johan, tu as le pouvoir de changer l'atmosphère environnante, d'influencer les personnes qui t'entourent, de transformer les situations en opportunités. Et si aujourd'hui, je n'étais pas semblable à un thermomètre, mais à un thermostat ? Il n'est jamais trop tard pour poser de solides fondations à notre vie et des limites à nos relations.
Écoutez, c'est Phare FM.
I'm the child of a loving father. I'm a part of the family. His mercy is sweet like summer, and he's always welcoming. So if you feel like you're going under, come and fall on amazing grace. He's the God who can walk on water, and his love can change. Somebody like me, somebody like you. You come as you are and you leave brand new. If you're feeling broken, running out of hope, then just look how his love set free. Somebody like me.
John et Kane, le trio, rien que pour vous ce matin, pour bien vous réveiller. Et puis, pour vous encourager encore, une petite explication de la Bible. Je sais pas quelle image vous avez de Dieu. Quand vous entendez le mot Dieu, vous pensez à quoi? Pour certains, c'est un père. Pour d'autres, c'est un pourvoyeur. Pour d'autres encore, c'est la personne qui vous apporte la paix. Eh ben, découvrez comment on parle-t-on de Dieu dans Bible Project. C'est un court extrait. Retrouvez la version intégrale ce soir à 20h50, juste après la musique. Voici Sophika avec Desire sur Phare FM.
Hard what you do to me. I never thought you'd be so near. Strange how you make me feel. Like loving me comes easily. Wish I could stay here longer. Wish I could hold on to your hand. But you slip through my fingers. Like I'm trying to catch the wind. The longing, the yearning, it's the searching, the craving, it's the aching, the breaking, it's the desire, desire. You are the wind to me that brings me peace. You are the well that springs inside of me. You are the only one I wanna be with. Desire, desire. I am feeling, feeling all your love. I can never get enough. It's hard for me to bear.
to know there's so much more about you. You lead the steps I take. Tell me, how deep can we go? How much higher? How much closer can I get? The more I know you, the more you leave me undone. The longing, the yearning, it's the searching, the craving, it's the aching, the breaking, it's the desire, desire. You are the wind to me that brings me peace. You are the well that springs inside of me. You are the only one.
Expérimentez la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus.
Si vous aviez vécu à l'époque de la Bible, vous auriez certainement été soumis à l'autorité d'un roi.
Et bon nombre d'entre eux prétendaient être des dieux. Ils allaient jusqu'à se faire appeler l'image de Dieu.
Donc, ils avaient le pouvoir de dicter aux gens quoi faire et comment le faire ?
Oui. Ils décidaient seuls de ce qui était bien ou mal. Ces rois se faisaient souvent tailler des statues à leur image, ce qui en hébreu s'appelle « tselem ». Elle se traduit souvent par « idole » ou « image ».
Mais les Israélites ne prenaient pas leur roi pour Dieu. En fait, ils n'avaient même pas le droit de faire des représentations de Dieu.
Tout à fait. À cette époque, et dans cette culture, c'était du jamais vu. Tout d'abord, les Israélites ont cette conviction profondément ancrée en eux, selon laquelle Dieu, le Créateur, ne peut être réduit à aucun élément de la création. Ensuite, personne n'a le droit de réaliser d'image de Dieu parce que Dieu s'est déjà reproduit à travers plusieurs images.
Mais à quel moment l'a-t-il fait ?
Retournons à la première page de la Bible. La première personne qui y est mentionnée, c'est Dieu. Il est la seule autorité établie sur toute la création.
Phare FM vous a présenté Bible Project. Retrouvez cet épisode en intégralité et en vidéo sur bibleproject.com/français.
Écoutez, c'est Phare FM.
La sagesse de Gandhi, l'assurance. no, 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 no. Juste moi et tes livres. Mais je sais qu'on baisse déjà ça.
Naked light I saw 10,000 people, maybe.